Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à nouveau ensemble pour une nouvelle émission « Les premiers pas de l'histoire » consacrée au réseau des paléonautes. Les paléonautes mettent leur site et leur savoir-faire en commun pour vous faire vivre une aventure unique. Découvrir la recherche scientifique en paléontologie et préhistoire. Chaque site est une mine au trésor. Il vous permet de vous plonger dans un espace-temps de 150 millions d'années. Vous pourrez retrouver tous ces lieux lors de nos émissions. La plage au ptérosaure, les phosphatières du Clos d'Oral, les grottes de la cave, l'archéosite des Fieux, le musée de l'homme de Néandertal, la maison du Piage, les grottes de Cougnac, la grotte de Foissac et le centre de préhistoire du Pêche-Merle. Dans notre premier numéro, vous aviez pu visiter la grotte du Pêche-Merle en compagnie de Bertrand Defoy, conservateur du musée de la Belle-et-Mauzie, situé également sur le même site. Et c'est lui qui va être à nouveau votre guide dans ce second numéro. Il va vous faire découvrir cette fois-ci le musée. Préparez votre meilleur fauteuil et tenez-vous prêt, la visite commence. Alors là, nous changeons de lieu, on est juste à l'entrée de la porte du musée.
Voilà. C'est le musée de préhistoire Amédée Lemauzie, qui est en fait le nom du fondateur, et qui était en fait le curé du village au début du XXe siècle. Et c'est le chercheur qui a étudié les peintures de la grotte de Pêche-Merle. C'était un archéologue, un préhistorien, et c'est sur les bases de ses collections personnelles que le musée a été fondé. Le premier musée a été créé en 1934 au village de Cabreret, dans une maison à côté de l'église. Et puis ensuite, le musée a été transféré dans les salles du grand château de Cabreret. Ce château a fermé en 64. Et à ce moment-là, toutes les collections de préhistoire ont été remises à la commune. Et la commune s'est engagée à créer un nouveau musée pour pouvoir accueillir ces collections. Et c'est le musée dans lequel nous sommes, qui a été ouvert ici donc en 81. Voilà.
Donc 40 ans cette année.
Voilà, exactement, 40 ans cette année. Alors, on ne va pas faire quoi que ce soit de particulier pour célébrer cet anniversaire. On se focalise plutôt sur l'anniversaire de la découverte des peintures l'année prochaine. Et on est ici donc dans ce musée qui se répartit en trois espaces. Tout d'abord, devant nous, on a une salle de cinéma. C'est une grande salle de cinéma dans laquelle on projette un film documentaire sur les peintures de la grotte. Donc, c'est un bon complément avant ou après la visite de la grotte. Ça restitue en fait le travail du préhistorien qui a étudié les peintures de la grotte de Pêche-Merle. Donc ça, c'est un premier espace. Et puis devant nous, on a les salles d'exposition qui sont au nombre de deux. On a une salle qui est consacrée à la préhistoire de la région du Quercy. Donc c'est le musée en fait de préhistoire régionale du Quercy et du département du Lot. Et puis une autre salle qui est consacrée plutôt à l'art préhistorique et à l'art pariétal du Quercy. Voilà, je vous propose, c'est de commencer par l'art préhistorique.
Allons-y.
En faisant le lien avec la grotte.
Avec
peut-être.
La grotte, tout à
voilà.
Fait.
Alors, par ici, on peut voir que. On va commencer par ici une carte. C'est une carte de la région, une carte assez large, où on a tout en bas la vallée de l'Aveyron. Donc, c'est déjà le département du Tarn-et-Garonne. Et tout au nord, on a ici la vallée de la Dordogne et la Corrèze et le département de la Dordogne. Et entre les deux, donc, on a la région du Quercy. Et sur cette carte, chaque point rouge montre une grotte avec des dessins préhistoriques.
Il y en a beaucoup.
Et il y en a beaucoup, il y en a au total une trentaine. Et on voit que Pêche-Merle est ici, et que la grotte de Pêche-Merle est en fait au cœur d'une concentration d'une douzaine de grottes paléolithiques, des dessins qui datent entre 20 et 10 000 ans à peu près. Donc, Pêche-Merle n'est pas un lieu isolé. La grotte de Pêche-Merle n'est pas une grotte toute seule comme ça, isolée, déconnectée du reste. On est vraiment dans une région qui est extrêmement riche en art préhistorique. Donc, autour de la confluence de la vallée du Célé et de la vallée du Lot, on a donc une douzaine de grottes ornées qui sont présentes. Après, on a d'autres cavités que l'on peut retrouver dans le Tarn-et-Garonne sur les bords de l'Aveyron. Là, on est près des villages de Saint-Antonin-Nobleval, de Bruniquel. En remontant un peu plus au nord, sur le causse de Gramat, au sud de Gramat, on a deux grottes, Rocadour-les-Escabas. Autour de Rocamadour, on en connaît encore deux autres. Et puis ensuite, sur la vallée de la Dordogne, on en connaît quelques-unes. On peut remonter jusque dans le bassin de Brive, où on a encore deux grottes un peu marginales, mais qui sont quand même présentes. Tout ça, ça fait l'entité préhistorique du Quercy, donc avec une trentaine de grottes ornées, une grotte du Paléolithique. Et puis sur cette même carte, on a des points ici marqués en vert. Alors ça, c'est plutôt le groupe du Périgord, avec la grotte de Lascaux et l'ensemble des grottes qui se trouvent autour des Aisies de Taillac en particulier. Et là, on est sur des thématiques et des représentations qui sont légèrement différentes. Donc en fait, on a vraiment deux entités préhistoriques, le Quercy d'un côté et le Périgord de l'autre. Voilà. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est que voilà, Pechmerne n'est pas une grotte isolée. Il y a de très nombreuses autres grottes préhistoriques, mais pour la majorité, elles sont toutes fermées au public et elles le resteront. En fait, sur ces 30 grottes ornées du Quercy, il n'y en a que 3 qui sont ouvertes au public, donc Pechmerle, bien entendu, la grotte de Cougnac, qui est à côté de Gourdon, qui est une très très belle grotte à voir, et la grotte des Merveilles, donc, qui se trouve à Rocamadour. Voilà, ce sont les 3 seules grottes ouvertes au public. Toutes les autres sont fermées au public pour des raisons de conservation, d'une part. Et puis d'autre part, certaines grottes ne sont pas très exceptionnelles quoi, au niveau des dessins. Les dessins ne se sont pas forcément bien conservés. Il n'y en a pas forcément un grand nombre. Ils sont souvent difficiles à voir. Donc ça n'aurait pas vraiment un intérêt de les aménager pour accueillir du public. Donc voilà, ça c'était un premier élément sur l'art préhistorique du Quercy. Et on a ici dans cette salle là quelques images, oui. Alors qu'ils sont un petit peu vieillis, mais enfin ça va être repris pour l'année prochaine justement, oui. De peintures ou de dessins que l'on retrouve dans d'autres grottes ornées inaccessibles au public. D'accord. Ici on a une peinture d'un cheval avec sa tête ici, on a la crinière, le dos, et ici le poitrail. Donc ça c'est un dessin d'une grotte du Causse de Gramma. Là, dans la vallée du Célé, on a des gravures, c'est la grotte de Sainte-Eulalie, on a des gravures assez fines. Et puis là, dans le Tarn-et-Garonne, oui. On a la grotte de la Madeleine, où on voit ici cette espèce de cheval. Enfin, c'est pas une espèce de, c'est un cheval. Voilà, qui est gravé dans la roche. Donc voilà, on a quelques images comme ça, qui permettent de montrer des dessins que le public ne verra jamais en réalité. Voilà, alors je vous disais que dans la grotte de Pechmerle, il y a des dessins que l'on ne voit pas. Voici la reproduction qui en est faite ici. C'est une reproduction à l'échelle 1. On a ici le panneau qu'on appelle le panneau des antilopes. Alors c'est quelque chose de très particulier, en fait, ce sont des animaux composites, des animaux imaginaires, des animaux qui n'existent pas dans la réalité. On l'appelle le panneau des antilopes parce qu'on a 3 petites têtes avec des toutes petites cornes derrière qui font penser à des têtes d'antilopes. Mais ce sont des animaux hybrides parce qu'on a des éléments de différents animaux qui sont représentés. Par exemple, ici, on a cette tête... un peu tête d'antilope, mais juste derrière, on a une bosse de graisse ici, avec ses petits traits verticaux. Alors ça rappelle la bosse de graisse qui est représentée sur le mégacéros, généralement. Ici, on a l'arrière de l'animal, une toute petite queue qui est relevée, qui est plutôt une queue de bouquetin. Donc voilà, on a différents éléments d'animaux comme ça qui sont repris et pour composer ce panneau qui est très particulier. Et qui se trouve dans la grotte, dans un endroit vraiment tout petit, très difficile d'accès. Il faut vraiment faire de la spéléologie pour aller le voir. C'est après une chatière. Donc là, on a un passage qui fait 30 cm de large sur 40 cm de haut. Donc très difficile à franchir. Et on a ce panneau qui se trouve juste derrière. Et puis, on a également ce panneau-là, le panneau de la cage au lion, parce qu'il représente ici un lion des cavernes. De profil avec le dos et ici la queue qui se termine en forme de crochet. Donc on a ce dessin de lion. On a sur le fond de la paroi des grosses ponctuations rouges régulières tout au long. Et puis par-dessus ce lion, on a 2 chevaux. Ça reprend un petit peu la composition des chevaux ponctués que l'on a vu tout à l'heure. Un cheval tourné vers la gauche, un cheval tourné vers la droite, avec à chaque fois la représentation là, de l'encolure et de la crinière. Là, c'est vraiment comme sur le panneau des chevaux ponctués, avec une tache de couleur, sauf que ici, ces chevaux sont de couleur rouge. Voilà, ça, ce sont des panneaux qui sont représentés ici à l'échelle 1, et ce sont ces figures-là qui, pour l'année prochaine, seront reproduites en facsimilé. Donc là, on verra vraiment dans quel contexte, dans quelle alcôve ces dessins ont été réalisés. On a ici une photographie d'un panneau qui montre toute une série de ponctuations. Je vous ai parlé tout à l'heure dans la grotte des ponctuations que l'on retrouvait sur les chevaux, et il y avait certains panneaux qui étaient composés uniquement de ces ponctuations. Ben, voilà un exemple, dans cette galerie donc, du Combel, galerie qui est inaccessible au public, où on a comme ça des grands panneaux recouverts uniquement de ces ponctuations.
Ce qui veut bien dire que c'était quelque chose de symbolique pour eux, qui reste un mystère, comme vous nous le disiez tout à l'heure.
Voilà, ça reste un mystère. Alors, on voit bien qu'il y a une organisation. Hein. Ces ponctuations sont représentées, forment des lignes, mais ces lignes ne dessinent rien de particulier. Ce n'est pas une forme figurative, ça ne rappelle rien d'un point de vue... ça ne se rapproche pas d'un autre signe symbolique, mais on voit qu'il y a une organisation, malgré tout. Et puis, quand on regarde de très près, on voit que ces ponctuations, on sent là le peintre qui a craché la couleur avec la bouche, avec des endroits qui sont extrêmement concentrés en couleur. Hein, il y a encore vraiment de la matière qui est accrochée de la paroi. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de la ponctuation, on voit un dégradé, comme ça, hein, à chaque fois. On va du très foncé au beaucoup plus clair. Mais quand on est dans la grotte et qu'on voit ces dessins en vrai, la couleur est aussi vive que ce que l'on voit ici à la photo. La couleur est vraiment très, très présente encore. Hein. On a l'impression que ça a été fait il y a 15 jours, alors qu'on sait que ça daterait plutôt de la phase ancienne, entre 28 et 29 000 ans à peu près. Alors cette salle où nous sommes sert également de complément à la visite de la grotte. Alors ici, on a un plan de la cavité, c'est une chose, ça permet de se situer un petit peu dans le parcours que l'on a fait. On a ici surtout la reproduction de la frise noire. Hein, c'est la première figure que l'on voit au cours de la visite. Et donc là, on a l'ensemble des éléments qui sont représentés à plat. On retrouve donc la composition de cette figure avec le cheval au centre, les deux bisons qui sont proches du cheval, dont un qui est vraiment dessiné sur le cheval. Ensuite, cette ronde des mammouths qui se trouve autour. Et enfin, les aurochs qui arrivent ici par la gauche. Là, c'est une reproduction à l'échelle réduite. Hein. Je pense que ça va faire à peu près 4 mètres de long. Dans la réalité, c'est plus de 7 mètres.
Là, c'est très net. Du coup, on a du visu tout de suite, tous les animaux qui ressortent. Alors que dans la grotte, il y en a qu'on devine, qui sont plus cachés, qu'on ne trouve pas tout de suite.
Oui, notamment sur la gauche, hein, sur la gauche du panneau. Parce qu'effectivement, dans la grotte, on a en fait un retour de paroi, comme ça, qui forme une sorte d'arche. Et on a ce mammouth qui est à cheval, en fait, sur les deux parois, qui est difficile à voir. Et puis, on a cet auroch là qui est complètement à gauche aussi, qui n'est pas évident à voir. Donc voilà, et puis ici on a quelques reproductions des signes. On a ici là, le dessin de l'homme blessé que l'on voit dans la visite de la grotte à Pêche-Merle, donc avec la tête, le tronc, puis là les deux jambes, les deux bras, vraiment des moignons, hein, ces tout petits bras, et puis ces traits donc, qui traversent le corps de ce personnage, et avec le signe géométrique qui l'accompagne. Donc ça c'est le dessin de Pêche-Merle. Juste en dessous, on a le dessin de l'homme blessé de Cougnac.
Oui, qui est vraiment très très proche.
Qui est très proche, alors sauf que ce personnage est plus incliné, peut-être vers l'avant, mais on a une tête qui est assez sommaire, des tout petits bras également, un tronc, et puis là, une jambe dessinée, puis l'autre qui est un peu esquissée derrière, et pareil, encore des traits qui lui traversent le corps. L'homme blessé de Pêche-Merle est donc associé à ce signe, là, en forme de grand T majuscule, et le signe que l'on retrouve à Cougnac, c'est celui-ci.
Oui, qui est très très similaire.
Qui est très similaire, pareil, signe avifant. Donc ce sont des éléments qui sont vraiment très...
qui resteront sans réponse.
Pour l'instant. Et quand on a fait la visite de la grotte, je vous parlais du plafond. Du plafond avec les tracés faits au doigt. On a ici une reproduction de ce plafond. Alors, échelle réduite, on a ici donc une partie des tracés qui se trouve réalisée au plafond. La plupart de ces traits ne représentent rien. Hein, ce sont juste des traits faits avec le bout des doigts, à un doigt, deux doigts, trois doigts parfois. On peut retrouver quelques gestes d'ailleurs. Par exemple ici, là, on a un ensemble de trois doigts. Et puis, on a des dessins qui sont faits... Ah ben là, on a encore trois doigts. Là, on en a un seul. Là, on a deux doigts, ici, qui ont été faits. Donc, on voit les mouvements qui ont été faits avec un, deux, trois doigts. Et parmi tous ces tracés inextricables, donc, on a des dessins figuratifs qui ont été réalisés. On peut deviner ici, par exemple, ben on va commencer par un mammouth qui a été fait avec deux doigts, ici. On a ici ce mammouth avec l'arrière du dos, la bosse du dos, la tête, ici la trompe. Là, on a la patte avant, là, le ventre et le début de la patte arrière. Et au même endroit du dessin de ce mammouth, on a une silhouette féminine qui se trouve ici. Alors, on a la tête qui est là, on a une petite queue de cheval à l'arrière. Ici, on a le dos, les fesses, la jambe, ici la jambe, le ventre. Ici, on a la poitrine, et là, on a un petit triangle qui dessine le bras, et retour à la tête. Alors, ce qui est particulier sur ce plafond, c'est qu'on a une association assez systématique entre une silhouette féminine et un mammouth. Et à chaque fois, la composition est la même. D'abord, la silhouette féminine est dessinée avec un seul doigt. Par-dessus, c'est le mammouth qui a été tracé avec deux doigts. Et on retrouve cette association systématiquement. Donc là, on a cette silhouette féminine que l'on vient de voir, par-dessus, ce grand mammouth. Ici, on a une silhouette féminine qui n'est pas évidente à voir. Elle est sans tête. On a ici, là, la poitrine,
ah oui.
Le ventre, la jambe, les fesses, le dos. La tête devrait être là, elle n'a pas été dessinée. Donc ici, on a cette silhouette féminine, et par-dessus, on a un mammouth fait avec deux doigts. Ce n'est pas un hasard d'avoir cette association systématique. D'abord, une silhouette féminine faite avec un doigt, puis le mammouth par-dessus avec deux doigts. Ça devait avoir une signification, laquelle, c'est encore difficile de dire. Et puis on a ce signe qui est particulier ici, une sorte de cercle qui est un peu recourbé, un peu comme un cœur, ici, là. Mmh. Il est doublé, ce cercle. On appelle ça un cercle échancré. Alors d'après les études scientifiques qui ont été menées par ce chercheur du CNRS, Michel Leurblanchet, qui a étudié tout l'art préhistorique du Quercy, pour lui, ça fait partie des signes anciens de la préhistoire. Ce cercle échancré, on le retrouve dans d'autres grottes, et en particulier, on retrouve ce motif gravé dans une grotte sur le cause de Gramat qui s'appelle la grotte de Roucadour. On a ici sur cette photo une représentation de ce cercle échancré. Il est ici. Alors là, il est doublé en 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 traits qui sont parallèles, donc qui forment ce cercle échancré là. Donc ça fait partie de ces signes très spécifiques au Quercy que l'on ne retrouve pas ailleurs, par exemple.
Ah oui, il n'y a que ici, dans la région, qu'on les a trouvés.
Oui. Donc voilà, alors il est représenté ici au plafond et il fait le lien entre ces deux couples. Alors pour avoir une meilleure lecture, on a ce panneau-là qui reprend en fait le plafond, sauf que là, en couleur, on voit les silhouettes féminines marquées en rouge et en bleu, on a les dessins des mammouths. Et en vert, ici, on a ce cercle échancré qui semble faire la jonction entre ce couple silhouette féminine mammouth et celui-là, silhouette féminine mammouth. Donc voilà, ça, c'est vraiment une figure qui est très difficile à voir, hein, quand on est dans la grotte. Hein. Je vous ai montré, quand on était dans la cavité, donc tous ces tracés. Mais après, pour démêler les différentes figures, c'est pas évident.
C'était un jeu de patience.
Voilà. Alors, quand on fait la visite de la grotte, on est en temps limité. Mais il y a énormément de choses que l'on pourrait raconter autour de ces dessins. Aujourd'hui, on ne peut pas interpréter, mais on peut décrire. Et on peut décrire ce que l'on voit. Donc on décrit les figures, on décrit qu'il y a des dessins de chevaux, de bisons, de mammouths, de rocs, etc. D'accord ? Et on peut faire d'autres observations. Je parlais tout à l'heure des dessins qui ont été réalisés dans la galerie du Combel, partie qui ne se visite pas, et des dessins qui se trouvent dans des endroits vraiment tout petits, très difficiles d'accès. En fait, c'est une des particularités de l'art préhistorique, c'est qu'il y a des dessins qui ont été faits pour être vus. C'est le cas de la frise noire, c'est le cas des chevaux ponctués, par exemple, où on a un petit espace devant ces panneaux, où un petit groupe de préhistoriques pouvait se retrouver, rassembler, et ces figures ont pu servir à faire un certain nombre de choses. Des cérémonies, des rituels, des initiations, c'est pas quelque chose à exclure. Pour la frise noire, dont on a parlé tout à l'heure, qui a une composition très particulière, avec d'abord le dessin de ce cheval, puis les bisons, puis les mammouths, puis enfin les aurochs, ça raconte quelque chose. Donc il n'est pas impossible qu'une fois que le dessin ait été réalisé, il y ait quelqu'un du groupe des préhistoriques qui soit là pour raconter une histoire avec un public qui soit présent et qui, au fur et à mesure, avec un éclairage, montrer, voilà, le cheval, il s'est passé ceci, puis les bisons, puis cela. Donc une fois que les dessins ont été réalisés, ces figures ont pu servir de support, soit pour raconter une mythologie, on peut l'imaginer, soit pour servir de support à des cérémonies ou des rituels ou des initiations ou ce genre de choses. On est en fait dans le cadre d'une grotte ornée. Aujourd'hui, les scientifiques considèrent que ça devait être un lieu sacré. Et qu'en fait, les préhistoriques, quand ils y venaient, ils ne venaient pas pour faire n'importe quoi. Et que le choix des figures qui sont représentées, le choix des panneaux et le choix de la technique utilisée devaient avoir une signification particulière. Parce qu'effectivement, il faut être motivé pour venir dans une grotte. et puis surtout s'éloigner de la lumière naturelle pour rentrer dans les parties obscures et pour pouvoir faire des figures animales. Alors, on ne sait pas ce qui est représenté sur les parois, mais il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d'abord, au Paléolithique, on est là face au tout premier dessin de l'humanité. C'est-à-dire qu'auparavant, les hommes ne dessinaient pas, ne représentaient pas leur environnement. Donc, vraisemblablement, les premiers dessins qui ont été faits dans les grottes, ça devait être des dessins qui représentaient quelque chose d'important. Et en fait, on constate que à travers tous les continents et à travers toutes les périodes, les hommes, les cultures humaines ont voulu représenter bien souvent leur mythologie, leur explication qui leur était propre sur l'existence du monde, sur l'origine du monde, pour expliquer un petit peu tout l'univers dans lequel ils vivaient. Premier élément. Deuxième élément, on s'aperçoit que dans les grottes, les dessins qui sont représentés ne représentent pas n'importe quoi, ni ça n'a pas été représenté n'importe comment. Par exemple, ce sont certains animaux qui sont représentés et pas d'autres. On sait par exemple qu'il y avait du lapin à cette époque-là, sauf qu'on n'a aucun dessin de lapin dans les grottes. On a pensé au début du XXe siècle qu'ils représentaient leur tableau de chasse, que c'était une manière de favoriser la chasse du lendemain ou de s'attirer les faveurs d'un monde surnaturel pour favoriser la chasse à venir. En fait, on s'aperçoit qu'à cette époque-là, ils consommaient essentiellement du renne. Sauf que du renne, ici à Pechmer, il n'y en a aucun qui sont représentés. Ils ne chassaient pas le mammouth, parce que le mammouth était un animal beaucoup trop gros, beaucoup trop important, qui aurait donné beaucoup trop de viande pour alimenter un groupe qui était assez limité, donc ils n'allaient pas gâcher. Donc en fait, ce n'est pas des représentations qui correspondaient à leur consommation de viande.
Il n'y a pas d'oiseaux non plus
dans... Il n'y a pas d'oiseaux, en effet. Et en fait, il y a quantité d'animaux qui existaient à leur époque que l'on ne retrouve pas dans l'art. Donc, ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix de représenter certains animaux et pas d'autres. Et parmi ces choix, ils ont surtout représenté des grands herbivores. Cheval, bison, mammouth, aurochs, des animaux qui sont plutôt imposants d'un point de vue de leur taille, et puis en plus, ceux qui étaient herbivores, donc qui ne représentaient pas un danger particulier pour l'homme. Donc, ça devait correspondre à une croyance ou à une culture particulière, en fait. Les dessins que l'on retrouve dans les grottes ne sont certainement pas liés au hasard, ni dans le choix des sujets, ni dans leur réalisation. Et donc, on a des panneaux qui ont été réalisés comme ça pour être vus par n'importe qui rentrait dans la grotte. Le panneau des chevaux, par exemple, quand on va dans la salle des peintures, on ne peut pas le rater. Il est visible par tous. À l'inverse, il y a des dessins qui ont été volontairement cachés. Comme les dessins qui se trouvent au fond du combel, qui se trouvent dans des toutes petites niches où il faut faire de la spéléologie pour y aller, ces dessins-là ont été faits pour ne pas être vus. Ou alors vus par juste certaines personnes initiées. Donc, il devait y avoir des dessins qui avaient plutôt un statut, entre guillemets, public, donc qui pouvaient se voir ou servir de support pour des petits groupes de 10, 15, 20 personnes, peut-être. Et à l'inverse, il y a des dessins qui étaient réservés soit à une ou deux personnes, ou alors des dessins qui ont été faits pour n'être vus par personne, parce que ce n'était pas le but. Et comme quand on est dans la grotte, on s'aperçoit qu'on quitte complètement l'univers de surface, l'univers extérieur, qu'on rentre dans un monde qui est quand même assez étonnant, avec une acoustique particulière. On se déconnecte complètement de l'extérieur, on ne sait plus s'il fait jour, s'il fait nuit, on ne sait plus s'orienter, on ne sait plus s'il fait beau ou si c'est la tempête, s'il y a l'orage. On est dans un autre univers. Moi, ça me fait penser un peu aux Mayas, au peuple Maya qui parlait pour le milieu souterrain d'un inframonde. C'est vrai qu'on rentre dans un autre univers complètement différent de celui que l'on connaît. Et quelque part, on peut penser que ça pouvait faire penser à un monde un peu surnaturel. Parce qu'on a des formes particulières, on a des couleurs particulières, le son ne se propage pas de la même manière. Et on rentre sous terre, donc... On peut faire l'hypothèse que, pourquoi pas, les préhistoriques imaginaient que ce sont dans les grottes que la vie est née, que les animaux tels qu'on les connaît à la surface sont apparus, et que en fait, représenter les animaux sur les parois, c'était une manière en fait, de rentrer en contact avec des forces surnaturelles qui résidaient dans la paroi de la grotte. D'où ce jeu qui peut être fait avec le relief de la paroi, puisque les animaux sont déjà présents, il suffit juste d'un trait ou deux pour les mettre en valeur, les faire apparaître. Et peut-être que ces animaux représentés dans la grotte étaient en fait, la grotte étant la matrice de la naissance de ces animaux qui ensuite allaient sortir et peupler la surface. Donc voilà, c'est une hypothèse, on n'en sait strictement rien, ça repose sur rien de scientifique, mais voilà un peu comment on peut commencer à appréhender un peu et expliquer la motivation qui a mené ces préhistoriques à venir sous terre faire ces dessins.
Et affronter leur peur.
Et affronter éventuellement leur peur. Est-ce qu'ils en avaient peur ? On n'en est pas sûr. La difficulté pour nous aujourd'hui, hommes du XXe et du XXIe siècle, c'est de s'affranchir de nos croyances d'aujourd'hui et de notre perception et de notre culture pour essayer d'appréhender une culture de ces préhistoriques qui était là il y a 15, 20, 25 000 ans. Et ça, c'est le plus dur. On a hérité d'une culture chrétienne et d'une culture de croyances populaires qui, pendant des siècles, nous ont dit que le milieu souterrain, c'est le lieu des enfers. Et les animaux qui vivent là, comme les chauves-souris, c'était des animaux démoniaques. Et qu'aller sous terre, c'était aller à la rencontre des difficultés, rencontrer des problèmes et de se rapprocher du diable quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, on porte toujours ça en nous, dans notre culture. Et que c'est vrai qu'on a une appréhension à aller sous terre parce que c'est l'inconnu, parce que c'est l'obscurité, parce que c'est le danger. Mais est-ce que les préhistoriques le percevaient comme ça ?
Oui, parce qu'on s'y sent bien en dessous. Hein.
Une fois qu'on y est, oui. Si on arrive à se libérer de nos craintes spontanées que l'on a, en fait, on s'aperçoit qu'en faisant attention, il nous arrive rien. Donc, est-ce que les préhistoriques avaient peur d'aller sous terre ? C'est peut-être pas sûr du tout.
C'est vrai.
C'est pas évident du tout. C'est le plus dur, vraiment, c'est de se libérer, en fait, de nos a priori d'aujourd'hui, de notre culture d'aujourd'hui, pour essayer d'aller à la rencontre de la culture de ces préhistoriques, qui est une culture complètement orale, non matérielle. Et aujourd'hui, on essaye d'interpréter les rares vestiges qu'ils nous ont laissés sans savoir si on est dans le vrai et dans le juste. Un exemple, souvent les visiteurs que l'on accompagne en visite dans la grotte de Pechmerle, quand ils voient ces mains au pochoir qui sont sur la paroi, spontanément ils nous disent « Ah, mais ça c'est l'artiste qui a signé son œuvre ». Effectivement, on peut penser ça aujourd'hui, qu'un artiste a besoin de signer son œuvre. Mais en y réfléchissant un petit peu, ça suppose quand même d'avoir un ego assez développé pour dire que l'artiste doit absolument signer son œuvre et que sa signature, ça va être sa main. Et quand on y réfléchit, et puis quand on essaye de faire soi-même une peinture, une main négative, on s'aperçoit d'une chose. Quand on veut faire une main négative, on place sa main sur la paroi. Ensuite, on crache la couleur. Une fois qu'on a craché la couleur, la couleur recouvre la main, les doigts, et recouvre la roche qui est autour. Donc à ce moment-là, on a une tache noire, qu'une tache noire, et la main disparaît, comme si la main traversait la paroi. Est-ce que ce n'est pas ça qui est important ? Est-ce que ce n'est pas le moment où la main disparaît de la paroi, comme si elle allait à la rencontre des esprits qui étaient dans la roche ? Et une fois que la main est enlevée, on a effectivement une trace, mais ça, ce n'est pas important. Ça, c'est le reste. Nous, on voit que ce qui reste. Mais si ça se trouve, ce qui était important à faire, c'était le geste. Mais c'est un exemple. On n'en sait rien si c'était le cas. Mais voilà un exemple de comment il faut essayer de se libérer de nos préjugés, de nos conceptions actuelles pour essayer d'ouvrir l'esprit et d'essayer de se rapprocher ou essayer de deviner, ou essayer d'ouvrir des champs, en tout cas, du possible pour essayer d'appréhender un peu cette culture des préhistoriques. Et ça, c'est vraiment pas facile.
Une autre spiritualité.
Tout à fait. On est dans un monde spirituel dans l'art préhistorique, ça on en est quasiment certain. Laquelle, on n'en sait rien. On a, pendant ces deux dernières décennies, parlé beaucoup de chamanisme. Oui, pourquoi pas, c'est une possibilité, mais le chamanisme, finalement, c'est assez restreint. C'est une technique, le chamanisme, qui consiste à se mettre dans des états particuliers qui permettent d'entrer en transe. Et donc, à ce moment-là, en étant en transe, on peut rentrer en contact avec d'autres forces surnaturelles. Mais il y a d'autres interprétations possibles, à travers l'animisme, à travers le totémisme, à travers... Enfin, le champ des possibles est tellement vaste qu'on aura peut-être du mal un jour à trouver l'explication ou les explications qui nous amèneront à décoder cet art préhistorique. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer d'avoir l'esprit très ouvert, faire de la reconstitution, c'est-à-dire se mettre un peu dans les mêmes situations que les préhistoriques, tout seul au fond d'une grotte avec juste une petite flamme et juste quelques crayons, représenter ces dessins-là pour s'apercevoir de la technique nécessaire pour faire ces figures-là, de se remettre un peu en condition, de voir le temps nécessaire pour faire ces figures et puis de voir quel rapport on peut avoir avec la paroi, avec une grotte, avec il faut y passer du temps, il faut essayer de se mettre à leur place, mais c'est pas facile.
Il faut s'en imprégner.
Exactement. Ouais. Et on est dans une culture qui est extrêmement riche, qui nous dépasse complètement, parce que l'art pariétal s'est développé sur tout le continent européen, hein, depuis l'Angleterre jusqu'en Italie, depuis le Portugal jusqu'à la Russie. Ça s'est déroulé sur pendant 25 000 ans. Ils avaient tous un même fond culturel commun, visiblement. Ils devaient échanger ensemble. Ils devaient sans doute avoir quelque part des mêmes mythologies autour de la création, ce qui n'empêche pas d'avoir des différences. À travers le temps, il y a certaines évolutions que l'on peut peut-être deviner. Par exemple, dessiner un bison à 30 000 ans n'a peut-être pas la même signification que dessiner un bison à 15 000 ans. Il peut y avoir des particularités régionales. On a certains motifs qui apparaissent plus en Espagne et que l'on a moins en France, par exemple. Donc il peut y avoir comme ça des particularités régionales. Mais on est sur un art qui perdure sur 25 000 ans à l'échelle de l'Europe entière, de l'Europe occidentale en tout cas, avec les mêmes types de représentations. À chaque fois, ce sont dans la majorité des cas, des dessins qui sont vus de profil, avec les mêmes types d'animaux, plutôt les grands herbivores. À chaque fois, avec les mêmes règles de représentation, on n'a aucune ligne de sol, par exemple. Hein, quand on voit les dessins, il n'y a aucune ligne de sol. Ce sont des animaux qui sont en train de voler, qui ne reposent pas sur un sol, alors que nous, aujourd'hui, si on dessine un animal, bien, spontanément, on va faire un trait qui va représenter le sol. Ils vont reposer sur quelque chose. Eux, ce n'est pas le cas.
Et c'est vrai qu'ils sont tous de profil.
Ils sont tous de profil. Alors ça, on peut avoir aussi une explication plus simple. C'est plus simple, plus facile tout simplement de représenter un animal de profil plutôt qu'un animal de trois quarts ou de face. Peut-être que dans l'esprit humain, on peut le retrouver quand on compare par exemple des hiéroglyphes égyptiens avec des hiéroglyphes mayas. Les deux civilisations n'ont pas eu de relation entre elles, mais tous les deux ont représenté des personnages vus de profil. Parce que pour représenter des attitudes, des positions, c'est plus facile de les faire de profil. Donc là, c'est peut-être ça aussi qui s'applique. Mais en tout cas, on retrouve les mêmes motifs, on retrouve les mêmes dessins à différents endroits, donc à travers l'Europe. Et même depuis une quinzaine d'années, on s'est aperçu qu'il y en avait de l'autre côté de la Méditerranée, en Égypte, sur les bords du Nil, par exemple. Il y a des dessins qui datent de l'époque de Lascaux, où on a des aurochs dans le même style que ce qu'on retrouve ici en France. Donc on est face à une civilisation qui a perduré pendant 25 000 ans, avec une culture orale, et les seules traces de leur culture, ce sont ces dessins. Nous, en Europe occidentale, on a une histoire qui a 2000 ans. Notre calendrier a tout juste 2000 ans. Eux, c'est 25 000 ans. Quelque part, ça donne un peu le vertige de l'ampleur de ces sociétés, de ces cultures préhistoriques. Voilà, en tout cas, en venant ici à Pêche-Merle, on a cette chance de voir des dessins authentiques. Et ce qui n'est pas fréquent aujourd'hui, parce que les dessins de la préhistoire sont très fragiles. Après, problème qu'il y a eu sur la conservation de Lascaux, qui a créé un vrai traumatisme dans le milieu scientifique. Aujourd'hui, toute nouvelle grotte ornée qui sera découverte, plus aucune ne sera ouverte au public. Quand on a découvert la grotte Chauvet en Ardèche, c'était au milieu des années 90, d'entrée de jeu, on a décidé qu'elle ne serait jamais ouverte au public et on est parti tout de suite sur la réalisation d'un fac-similé pour pouvoir montrer ces dessins au public. Donc aujourd'hui, plus aucune peinture préhistorique nouvellement découverte ne sera accessible par le public. On va partir systématiquement sur du fac-similé.
Et vous pensez qu'un jour la grotte de Pêche-Merle, on ne pourra plus la visiter ? Ça sera limité ?
On verra à l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir préserver ces dessins. La grotte de Pêche-Merle, elle est classée monument historique, donc on est sous le contrôle étroit du ministère de la Culture. Si jamais il y avait le moindre souci sur la conservation des dessins, le ministère de la Culture interviendrait, soit pour baisser le nombre de visiteurs, soit pour réduire le temps de visite, soit, dans le pire des cas, pour fermer complètement la grotte. Ce qu'on ne souhaite pas. Donc justement, nous, on a pris depuis très longtemps des précautions pour limiter la présence humaine sous terre et donc avoir les meilleures conditions de conservation des dessins. On a tiré en fait un peu les enseignements de la mésaventure qui s'est déroulée à Lascaux. Souvent, les visiteurs nous posent la question, mais comment ça se fait que Lascaux a fermé alors que vous restez ouvert au public ? Alors c'est vrai qu'on est dans deux contextes complètement différents. Hein, la grotte de Pechmer, c'est une grande grotte qui fait pas loin de 2 km de long, donc elle a une forte inertie thermique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment insister pour que la température et que le climat de la grotte soient perturbés de manière vraiment significative. Lascaux, c'est une toute petite grotte qui se trouve très près de la surface. Et quand la grotte a été découverte, l'entrée a été ouverte en grand. Il y a plusieurs milliers de visiteurs qui sont venus chaque jour pour la visiter. Et résultat, la température de la grotte est montée en flèche. Et une fois que le déséquilibre climatique de la grotte de Lascaux a été engagé, ça a entraîné par effet domino des déséquilibres dans tout l'écosystème de la cavité. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait un équilibre biologique naturel qui existait depuis des milliers d'années entre les mousses, les champignons, les bactéries. Mais à partir du moment où il y a eu ce déséquilibre climatique, l'équilibre biologique n'a pas pu se maintenir. Et donc, on a vu des mousses qui se sont développées. Donc, ils ont voulu traiter les mousses. Donc, ils ont éradiqué complètement les mousses. Mais en éradiquant les mousses, ça a permis le développement des champignons qui avaient le champ libre. Et donc, voilà. Et une fois que ce cycle un peu infernal de déséquilibre naturel avait été engagé, il n'a plus été possible de récupérer l'équilibre naturel de la grotte de Lascaux. Et je n'ai pas trop d'informations, mais je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. L'équilibre naturel de la grotte n'est toujours pas revenu. Alors qu'ici, à Pechmerle, on a réussi à maintenir cet équilibre naturel. Équilibre climatique, équilibre biologique. Tout l'écosystème de la cavité a été maintenu. Et c'est pour ça qu'on arrive encore à pouvoir ouvrir au public et accueillir une partie du public dans la grotte, et on espère que ça va continuer.
Oui, on l'espère fortement.
Ouais, actuellement en France, il y a à peu près une dizaine de grottes qui montrent des dessins authentiques au public. Pechmerle en fait partie, Cougnac, à côté de Gourdon, en fait partie, et la grotte des Merveilles également. Ça fait 3 grottes dans le Lot, dans le Quercy, là, qui sont encore accessibles au public. Et on espère que ça va continuer. Mais après, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément. Le réchauffement de la planète, par exemple, à l'échelle de quelques décennies, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et si effectivement ça entraîne une augmentation significative de la température de la grotte, peut-être qu'on va être amené à prendre des décisions. Mais là, ce sera indépendant de notre volonté ou de toutes les précautions qu'on a pu prendre pour préserver les dessins.
Raison de plus pour que chacun de nous fassions attention à l'environnement.
Tout à fait, exactement. Voilà donc pour cette petite ouverture sur l'art préhistorique, l'art pariétal du paléolithique.
Et on a l'impression d'arriver dans un autre monde.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne s'imagine pas. Aujourd'hui, on baigne dans un monde d'images. Par les smartphones, les réseaux sociaux, on a de l'image, on veut tu en voilà, la télévision, le cinéma, les films, les séries, etc. Mais également les signes, les symboles, le code de la route. On connaît tous la signification de tous ces symboles du code de la route. À l'époque du paléolithique, ce sont les tout premiers dessins. Donc c'est d'un point de vue psychique, d'un point de vue au niveau du cerveau humain, c'est quand même un bouleversement complet de commencer à dessiner, de faire les premières figures, de faire les premiers motifs figuratifs ou symboliques. Là, du coup, c'est le niveau encore supérieur où on a un dessin qui ne représente rien, mais qui signifie quelque chose. Donc, ces premiers dessins qu'on retrouve dans les grottes, ça devait être quand même quelque chose d'assez bouleversant dans les cultures humaines, dans l'histoire des cultures humaines. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à penser que les représentations qu'ils ont faites dans la grotte, sans doute, ça devait être quelque chose d'important, voire de fondamental dans leur culture.
Merci.
Voilà, donc pour cet art préhistorique, je vous propose pour terminer de faire un petit tour dans la salle de préhistoire qui se trouve juste à côté. Voilà, alors ici on est dans cette salle consacrée à la préhistoire du Quercy. Alors il faut, on change un petit peu de contexte, oui. Du coup. On est à l'échelle de la région du Quercy, on est dans une région qui est extrêmement riche en sites préhistoriques. On a dans cette salle donc toute une série de vitrines qui présentent l'occupation humaine de la région de manière chronologique, c'est classique, du plus ancien au plus récent. Et donc là, sur ces deux premières vitrines, on a des objets qui, pour les plus anciens, datent d'à peu près 350 000 ans. Ce sont les premières traces de présence humaine dans la région. 350. Pour situer un petit peu, le plus ancien humain découvert en Europe, c'est l'homme de Tautavel, qui est daté de 450 000 ans. Et 450 000 ans, ça correspond à peu près à la période où on commence à domestiquer le feu. C'est-à-dire qu'on sait le produire, on sait fabriquer le feu. Et à cette époque-là, on est dans, au niveau humain, on est entre un Homo erectus et un homme de Néandertal. On dit qu'il apparaît pleinement aux alentours de 200 000 ans. Là, on est en fait, l'homme de Néandertal, c'est un type humain. On parle de Homo heidelbergensis, qui a progressivement en Europe évolué pour devenir Néandertal à peu près vers 200 000 ans. C'est une évolution très particulière de l'espèce humaine qui se produit uniquement en Europe occidentale. On est sur cette transition avec les premières traces d'occupation humaine, avec ces cailloux. Ce sont des outils. Les premiers outils sont sur du quartz, des quartzites, c'est-à-dire des galets que l'on retrouve dans les rivières. Et c'est des galets qui ont été cassés, fracturés, pour faire un tranchant. Un tranchant qui permettait soit de couper de la viande, soit de broyer des os, soit de couper, pourquoi pas, du bois, ce genre de choses.
Les premiers outils.
Les premiers outils, ici, dans la région, étaient en quartz. Pourquoi ? Parce que dans la région, ici, en Quercy, on est dans une région de calcaire, il n'y a pas de silex. Il n'y a très peu de silex. On peut avoir quelques rognons de silex, mais qui viennent du massif central et qui ont été emportés par les rivières. Mais sinon, sur les causes, sur les plateaux, on n'a aucun silex. Donc, on est dans une région où la matière première pour faire les outils à l'époque préhistorique, ben, il n'y en avait pas. Les gens qui sont venus ici, ben, ils ont utilisé la matière qu'ils trouvaient sur place, le quartz, quartzite, ce qui n'est quand même pas terrible pour la taille, parce que ce n'est pas une matière qui se taille très bien. Alors assez rapidement, les préhistoriques se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de bonne matière première ici. Donc, en fait, ils venaient ici dans la région avec du silex venu d'ailleurs, qui pouvait venir du Périgord, qui pouvait venir de la basse vallée du Lot, du côté de Fumel, par exemple. Il y a de très bons silex. À ce moment-là, où il a pu faire les premiers outils. Les premiers outils sont assez massifs. D'une manière générale, on prend un bloc de matière, que ce soit du silex ou d'un quartz, et on le taille et on va en faire un outil. Donc on va prendre un bloc de matière et on va en faire un outil un peu gros qui va servir à plein de choses, qui va servir à couper, qui va servir à broyer, qui va servir à trancher, qui va servir à un outil plutôt multiservice. Mais les préhistoriques ne sont pas bêtes et au fil du temps, ils se sont rendus compte quand même, c'est un peu couillon, d'avoir un bloc de matière et puis qu'avec un bloc de matière, on va en faire qu'un seul outil. Et ils vont mettre en place une technique de taille qu'à partir d'un bloc de matière, ils vont faire plusieurs enlèvements, plusieurs éclats qui vont pouvoir faire 4 ou 5 outils. Donc, assez rapidement, d'un bloc de matière, on ne va pas faire un seul outil, mais on va en faire 4 ou 5. C'est ce qu'on appelle la technique Levallois. C'est cette technique qui est présentée dans cette première vitrine où on a en fait un bloc de silex ici et on va en faire un éclat. C'est l'éclat qui est en relief ici. Voilà, et de cet éclat, on va pouvoir en faire un outil. Mais du bloc de matière initiale, on va pouvoir sortir un deuxième éclat, puis un troisième éclat, puis un quatrième, puis un cinquième, un sixième. Et on va pouvoir, comme ça, faire quelques outils à partir d'un même bloc de matière. Donc là, on va avoir des outils qui vont commencer à être un petit peu plus fins, un peu plus allégés. Alors là, sur la deuxième vitrine, là, on est pleinement sur Néandertal. L'homme de Néandertal, donc, occupe la région. Fait de l'outillage sur silex, avec des outils qui commencent à être un petit peu variés. On a des outils plutôt pointus, on a des outils plutôt droits, qui servent de couteau. Puis il y a un outil qui est très spécifique à la période, c'est ce que l'on appelle ici le biface. C'est une sorte d'outil en forme d'amande, ici, qui est plutôt arrondi à la base, pointu en haut. Et de chaque côté de cette pointe, on a un côté plutôt rectiligne, droit, et qui pouvait servir de couteau. Potentiellement, c'est un outil qui pouvait servir également à faire différentes choses. On a un éclat qui est assez intéressant ici, qui est sur le fond de la vitrine. C'est un morceau de silex dans lequel il y a un fossile d'un coquillage. Le néandertalien qui a trouvé ce morceau-là a taillé ce morceau de silex en prenant soin de préserver ce fossile. Il avait une notion de l'esthétique. Il était sensible au beau. Il a trouvé que ce coquillage, il était joli. Ça lui faisait un outil assez particulier, donc il a fait attention de bien le préserver, et donc il a cet outil qui est orné comme ça d'un joli coquillage en fossile au milieu. Alors, on a souvent très longtemps décrit Néandertal comme étant une brute un peu épaisse.
Pas tant que ça en fait.
Et pas tant que ça. Là par exemple, ça nous démontre bien qu'il avait quand même une sensibilité à l'esthétique. On le retrouve également dans le choix des matières. On a ici là une pointe qui est dans ce silex très rouge. Là, on a d'autres pointes qui sont plutôt dans des silex blonds, jaunes ou un gris bleuté. Donc, il avait quand même une sensibilité à la matière, une sensibilité à la couleur qui était évidente quand on voit ces objets-là. L'homme de Néandertal enterrait déjà ses morts. Et dans le nord du Quercy, on a retrouvé La première sépulture à l'échelle de l'Europe d'un homme de Néandertal, ça se trouve sur le site de la Chapelle aux Saints. Alors c'est le nord du Quercy, c'est le sud de la Corrèze. On a ici la reproduction de cette sépulture, de cet homme de Néandertal qui a été enterré il y a à peu près 40-50 000 ans. En fait, il a été enterré dans l'intérieur d'une petite grotte. Il y a une fosse qui a été creusée au sol. Il y a de l'ocre qui a été déposé au fond de cette fosse. Le corps a été déposé à cet endroit-là. Ça devait être accompagné de certaines offrandes. En tout cas, c'est une sépulture intentionnelle. Hein, les préhistoriques, les Néandertaliens, ont enterré ici un de leurs congénères il y a à peu près 50 000 ans. Donc, enterrer quelqu'un, ça suppose qu'on lui apporte de l'attention. Et pourquoi pas, on peut imaginer qu'ils avaient une certaine croyance en un au-delà, que cette personne défunte eh bien, allait partir dans un autre monde. Donc déjà, une certaine spiritualité qui existait à l'époque de Néandertal.
J'imagine qu'il y a d'autres squelettes qui ont été retrouvés comme ça. Est-ce que tout le monde se faisait enterrer ou est-ce que c'était réservé à certaines personnes? Ils ne savaient pas.
Difficile à dire. On n'en a pas énormément, hein, des sépultures néandertaliennes. À l'échelle de l'Europe, on n'en connaît pas énormément, mais il y en a quand même suffisamment pour... C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais ce n'était pas forcément systématique non plus. D'accord. Donc là, on n'a pas d'éléments pour dire que cette personne qui a été enterrée à cet endroit-là avait un statut particulier au niveau du groupe. On n'a pas d'éléments matériels qui permettent de le dire aujourd'hui. Donc voilà, en fait, avec ces deux vitrines-là, on a donc les parties, les périodes anciennes de la préhistoire du Quercy. C'est un des points forts de la préhistoire régionale, c'est qu'on a une occupation qui est très longue. Hein. Dès 350 000 ans, on a les premières traces d'occupation humaine. Et à partir du moment où les premiers hommes viennent ici, eh bien, en fait, on a une présence continue tout au long de la préhistoire jusqu'à l'Antiquité, ici dans notre région. Et ça, c'est assez unique en France d'avoir en fait... une région qui a enregistré toutes les traces de toutes les cultures qui se sont succédées au cours de la préhistoire. Il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de hiatus, on parle de ça en archéologie.
Il y a toute la continuité jusqu'à nos jours.
Exactement. Mmh. Alors, juste en face de nous, là, on a une autre vitrine. Ça provient d'un site dans le nord du département du Lot, c'est le site des Fieux. C'est sur la commune de Miers. On a retrouvé dans un gisement archéologique assez important des vestiges de mammouths. C'est assez rare, en fait, dans le Quercy, d'avoir des traces de mammouths, même s'il y avait des mammouths qui vivaient ici dans la région. On l'a vu dans les dessins de la grotte de Pechmerle. Les dessinateurs qui ont dessiné les mammouths ont vu des mammouths, c'est certain. Ce sont des moulages, mais qui montrent quelques vestiges de mammouths qui vivaient ici, donc, en Quercy. Les derniers mammouths ont dû quitter la région aux alentours de 15 ou 20 000 ans avant notre ère, à peu près. Devant nous, on a une défense qui n'est pas très grande, mais enfin, qui doit faire déjà facile 1,10 m de diamètre. On a effectivement deux dents. Alors, ces dents, elles sont toutes petites. Ce sont des dents de jeunes. Hein. Ce sont des adolescents
D'accord.
de mammouth.
D'accord,
oui. Et encore à droite, vous avez des dents de bébé mammouth. Dents de mammouth adulte, ça mesure plutôt 40 à 50 cm de long. Et ça mesure facile 40 cm d'épaisseur. C'est équivalent à peu près des éléphants. Là, on a un os long, l'équivalent du tibia peut-être. Et puis là, on a un fragment d'un os du bassin. On a la tête de fémur. Voilà, donc ça, ce sont des pièces qui viennent du site des Fieux, qui a été fouillé pendant une trentaine d'années, donc dans le nord du Lot. Aujourd'hui, il y a un archéosite qui permet de présenter le travail des archéologues, là-bas, sur place. Alors maintenant, on poursuit la visite et on passe aux deux vitrines suivantes. Alors, en franchissant ces deux vitrines, on passe un cap. Auparavant, on a parlé de l'homme de Néandertal et des premières occupations. On était dans la période ancienne de la préhistoire, le paléolithique, et la période ancienne du paléolithique, c'est le paléolithique moyen. Ici, on arrive devant ces deux vitrines, devant une autre période de la préhistoire qu'on appelle le paléolithique supérieur. C'est à partir de ce moment-là où Cro-Magnon, Homo sapiens, arrive en Europe. À partir de ce moment-là, Néandertal disparaît. Très rapidement, Néandertal disparaît. Il disparaît aux alentours de 35 000 ans, à peu près 30-35 000 ans avant notre ère. Les conditions de sa disparition, on ne les connaît pas encore très bien. Et quand Homo sapiens arrive en Europe, eh bien, il arrive avec dans ses bagages plein d'innovations, plein de nouveautés, en particulier l'art et les dessins dans les grottes. Avec les dessins les plus anciens connus, on a un petit cartel là qui rappelle la grotte Chauvet, c'est en Ardèche. Les dessins sont datés de 35-36 000 ans, 37 pour certains peut-être. Donc ce sont les dessins les plus anciens que l'on connaisse actuellement en Europe. Pechmerle, 29 000 ans. Et puis un peu plus loin, on a les dessins de Lascaux qui sont datés aux alentours de 17-19 000 ans à peu près. Il arrive également avec de nouvelles façons de tailler le silex.
On voit, c'est beaucoup plus fin. Les outils sont très, très fins.
Exactement. Par rapport à auparavant, où on avait des outils qui étaient quand même relativement importants, avec la technique Levallois, on pouvait sortir, à partir d'un bloc de matière, on pouvait sortir 4, 5, 6, 7 outils différents. Eh bien là, Homo sapiens va mettre en place une technique qui va consister à partir d'un bloc de matière, on va lui donner une forme particulière et ensuite on va extraire de ce bloc des lames. Ce sont des longs éclats, pas très larges, 3 cm de large à peu près, mais assez longs. Et à partir de ces lames, on va pouvoir faire à chaque fois des outils différents. Donc là, avec le même bloc de matière, on va pouvoir sortir 20 ou 25 outils différents. Donc là encore, économie de matière et exploitation au mieux de la matière première pour pouvoir faire des outils. Et on le voit immédiatement dans les vitrines, là, on a des outils qui sont beaucoup plus allongés, beaucoup plus fins. Et du coup, beaucoup plus variés. On a des outils qui vont avoir des fonctions très particulières. Des outils avec un bord arrondi, qu'on va appeler des grattoirs. On va avoir des burins qui vont servir pour faire de la gravure ou pour travailler l'os. Travailler l'os, ça c'est une nouveauté également de l'Homo sapiens. C'est-à-dire que ça va être le premier à faire des outils en os ou en bois de cervidés, en bois de renne par exemple. Il va fabriquer des outils. Là par exemple, on a des pointes de sagaie, c'est-à-dire des pointes qui vont servir à aller à la chasse. Qui sont en os ou en bois de renne, par exemple.
Et est-ce que c'est à partir de cette époque-là qu'ils ont peut-être commencé à faire des instruments, parce qu'il y a la musique aussi?
Tout à fait. Alors on a des instruments de musique. Alors on n'en connaît pas en Quercy, mais dans d'autres régions de France, on en connaît. Des flûtes, par exemple, faites dans des os d'oiseaux, donc des os assez légers et assez creux. On sait qu'à l'époque des peintures, dans les grottes, ils ont réalisé également des lithophones, c'est-à-dire des morceaux de calcite, des morceaux de draperie qui ont été brisés et sur lesquels ils ont tapé pour produire une sonorité. Après, il y a quantité d'instruments qui ont sans doute disparu, qui étaient faits en bois ou des tambours, par exemple, avec des pots. Mais tout ça, on n'en retrouve pas la trace. Là, on a quelques objets qui ont été faits donc en silex. On a par exemple ici un perçoir. Un perçoir qui est avec une toute petite pointe très fine qui permettait à faire, comme son nom l'indique, des trous pour percer. Ici, on a des dents, des coquillages qui ont été percés, qui servaient de parure. Donc, ce sont les débuts des premiers bijoux. On a ici, en os ou en bois de cervidé, des aiguilles. On a ici, dans la vallée du Célé, sur un des sites, sans doute une des aiguilles à chat les plus anciennes, datée aux entours de 23-24 000 ans. Quand on a des aiguilles comme celle-là, ça suppose qu'ils faisaient de la couture. Et avec ces coutures, ils pouvaient se constituer des vêtements. Ils pouvaient assembler des pots pour leur tente, par exemple, pour leur habitat. Ils pouvaient se fabriquer des protections pour les pieds, des sortes de bottes ou ce genre de choses, des bonnets. Au moment où les dessins sont réalisés, on est en pleine période glaciaire. Donc il fallait qu'ils trouvent les moyens pour se préserver du froid. On a là, par exemple, un bois de renne et avec un burin ici en noir, une lame de burin qui est fichée dedans. Ça, on montre comment on pouvait sortir une baguette de ce bois de renne et au fur et à mesure le transformer, soit pour en faire une aiguille, soit pour en faire des harpons. Harpons qui étaient attachés à une grande tige en bois qui permettait d'aller pêcher des poissons sur le bord des rivières. On a des outils qui peuvent être de plus en plus petits, de plus en plus spécialisés également. Alors souvent on voit ces outils comme ça présentés, alignés les uns à côté des autres, mais il faut s'imaginer que la plupart de ces outils étaient emmanchés, c'est-à-dire mis dans un manche en bois, collé avec de la colle fabriquée avec soit de la résine d'arbre, soit du miel, de la cire d'abeille ou ce genre de choses. On parlait de l'art pariétal. On a en parallèle des dessins dans les grottes, on a des dessins qui sont faits sur des objets. C'est ce qu'on appelle de l'art mobilier, de l'art sur objet que l'on pouvait déplacer. Là par exemple, ici on a un galet sur lequel est dessinée une biche qui est en train de se lécher le flanc. Et vous voyez que là, ce dessin qui est quand même assez fin, hein, on voit bien l'attitude de l'animal, mesure quelques centimètres seulement. Là, par exemple, sur cet os, on a un petit cheval qui est dessiné de manière un peu géométrique, mais ce cheval, on le voit au bout de cet os, il mesure quoi ? Un peu plus d'un centimètre de long.
C'est ça.
Et on a la tête, le cou, la crinière, le dos, la queue, les deux pattes. En dessous, on a un os qui est gravé avec des représentations humaines. En forme d'humain. Alors, les humains sont assez mal dessinés. On parle d'anthropomorphe, en forme d'humain. Mais moi, j'aime bien l'appeler le Snoopy. C'est le Snoopy de la préhistoire, avec sa tête un peu rectangulaire, ses yeux ronds. On a notre Snoopy qui vient là d'un site qui est pas loin de Rocamadour. Cette période-là, c'est une période qui est extrêmement riche, où on a énormément d'innovations, de nouveaux outils, l'art dans les grottes, l'art sur objet, à la fois sur pierre, sur bois, sur os, qui viennent enrichir l'équipement des préhistoriques. Donc voilà, alors avec ces deux vitrines, là on termine la longue période du paléolithique Et on a devant nous une période de transition qu'on appelle le Mésolithique. Alors, peut-être juste un mot sur les termes employés, termes un peu barbares. Paléolithique, lithique ça veut dire pierre, et paléo ça veut dire ancien. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était l'âge de la pierre ancienne. Plus tard, on va voir le néolithique, l'âge de la pierre nouvelle, et entre les deux vient se glisser cette période du mésolithique, l'âge de la pierre moyenne. En fait, c'est une période de transition. Auparavant, au paléolithique, se termine avec les dernières grandes glaciations, et avec le mésolithique, on a un réchauffement du climat. Et ce réchauffement du climat va entraîner une évolution complète de l'environnement. C'est-à-dire que toute la flore connue pendant les périodes glaciaires va disparaître. Alors la flore des périodes glaciaires, c'était surtout de la savane, hein, une espèce de toundra avec des herbes assez hautes, assez peu d'arbres, et puis avec la faune froide qui va avec, hein, les bisons, les mammouths, les bouquetins, etc. Avec ce réchauffement climatique, c'est l'environnement qui change complètement. Donc les forêts vont se mettre à pousser, les animaux habitués au temps froid comme les mammouths, les rennes vont remonter dans le nord de l'Europe, et ici on va avoir des animaux qui vont être plutôt acclimatés à un temps plus chaud, donc c'est le cerf. Les lapins vont se maintenir, les bœufs et tout ça vont se maintenir, mais on a plein d'animaux qui vont disparaître. Donc du coup, d'une manière générale, l'homme, pour survivre et pour la chasse, va être amené à chasser des animaux plus petits en dimension. Donc les techniques de chasse qui étaient valables auparavant, là maintenant, il faut les adapter. Et c'est à ce moment-là où va se généraliser la technique de l'arc et les flèches. On va mettre en place des techniques de taille également qui vont faire des outils beaucoup plus petits. Et on a ce qu'on appelle des microlithes. Ce que l'on voit ici, ce sont des tout petits outils en silex taillés qui font moins d'un centimètre. Et tout ça, ça a été retouché, c'est-à-dire que ça a été taillé sur les côtés pour les rendre tranchants ou non tranchants en fonction de ce qui était attendu. Donc toutes ces petites pointes qui sont là, mais également ces petits triangles, ces petits trapèzes, ce sont en fait ce qu'on appelle des armatures qui venaient pour les flèches. On voit que la taille de ces silex-là, ça amène à des techniques de taille encore plus poussées, où on va exploiter encore plus la matière. À partir d'un même bloc de matière, on va pouvoir faire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'outils. On a en même temps l'art qui perdure encore un petit peu sur objet. Dans les grottes, il n'y a plus de dessins qui sont réalisés. Et on n'a que des dessins qui sont faits sur des objets, comme les os ou sur des plaquettes de calcaire ou sur des galets. Mais c'est de l'art qui est uniquement géométrique, uniquement abstrait. Dans les Pyrénées, on a des galets qui sont peints avec des points, par exemple des points de couleur. Mais on n'a plus du tout de représentation figurative à cette époque-là. On est dans l'abstraction et dans la géométrisation complète. Chose assez exceptionnelle, dans les années 50, on a découvert une sépulture qui date de cette époque-là. Alors ça, c'est relativement rare. En France, on connaît très peu de sépultures de cette époque du Mésolithique. Eh bien, on en a ici en Quercy. Et on a plusieurs gisements qui ont permis donc de mieux connaître le type d'occupation, le type de mode de vie qu'avaient ces hommes du Mésolithique. Voilà, puis après, tout le reste de l'exposition, on est sur une période beaucoup plus récente. C'est le néolithique, donc l'âge de la pierre nouvelle. Et ça correspond en fait à une révolution complète dans le mode de vie des humains. Parce qu'auparavant, on avait affaire à des populations qui étaient nomades, donc qui se déplaçaient tout au long de l'année. On parle de chasseurs, cueilleurs, collecteurs. C'est-à-dire qu'ils étaient chasseurs pour se nourrir de viande. Ils récupéraient les baies ou tout ce qu'il y avait dans leur environnement qui était comme ça prélevable facilement. À partir du néolithique, on a la sédentarisation. Donc les hommes se fixent à un endroit et vivent là toute l'année. Avec la sédentarisation, va se mettre en place l'agriculture, l'élevage. Donc à partir de ce moment-là, entre l'agriculture et l'élevage, l'homme ne va plus dépendre de son environnement pour se nourrir, mais va produire sa propre nourriture. Sédentarisation, ça veut dire les premières maisons, les premiers villages. C'est le moment où aussi on va mettre en place de nouvelles technologies. On va s'apercevoir qu'on peut cuire l'argile, donc on va pouvoir apparaître la poterie. À partir du moment où on va faire de la domestication animale, eh bien on va avoir des moutons, donc on va pouvoir fabriquer de la laine. Donc il va y avoir du tissage qui va se mettre en place. À partir du moment où on a de l'agriculture, on va avoir du grain, donc on va pouvoir faire des farines, on va pouvoir faire des pains, des galettes. Avec les poteries, on va pouvoir stocker la nourriture d'une saison à l'autre. On va pouvoir se préparer et cuire des aliments comme des soupes, des bouillons, etc. En fait, c'est donc une alimentation qui est complètement renouvelée et une manière de vivre qui est complètement différente. Et dans notre région, le néolithique est marqué par certains sites importants et en particulier ceux que l'on a devant nous, des dolmens. Les premières occupations néolithiques ici dans la région, c'est autour de 6, 7, 8 000 ans à peu près avant notre ère. Les dolmens, eux, viennent plus tard, peut-être aux alentours de 3500 ou 4000 ans avant notre ère. Les dolmens, ce sont des sépultures. Pour construire les dolmens, il faut planter deux pierres verticales, ce qu'on appelle les orthostates, que l'on a ici devant nous. Au bout, une autre pierre verticale, qui est la dalle de chevet, et par-dessus, une grande dalle horizontale, que l'on appelle la table. Et c'est en fait cet ensemble-là qui forme une sorte de gros coffre, qui va servir en fait de chambre sépulcrale, c'est là où on va déposer le corps des défunts. C'est souvent comme ça que l'on s'imagine les dolmens, simplement des pierres verticales puis une table horizontale. Sauf qu'à l'origine, cet ensemble-là était inséré dans un grand monticule qu'on appelle un tumulus, et qui était bâti en pierre et en terre. C'était une sorte de tertre qui venait entourer complètement le dolmen. Et le but, en fait, c'était d'insérer la partie sépulcrale dans un grand monticule pour donner de la monumentalité à la sépulture. Alors, on pense qu'au départ, les personnes qui étaient inhumées dans ces tombeaux, en fait, devaient être des personnes avec un statut particulier. Et donc, il y avait tout le groupe qui se réunissait pour construire une tombe qui était à la hauteur donc, du statut des personnes qui étaient enterrées à cet endroit-là. Vraisemblablement, assez rapidement, en fait, il va y avoir une certaine démocratisation et ça ne va pas être réservé à une certaine élite, mais en fait, ça va être de plus en plus de monde qui va être inhumé dans ces dolmens. Les dolmens vont pouvoir être réouverts, on va faire du tri, on va pousser les ossements des anciens pour pouvoir déposer de nouveaux corps. En tout cas, le but, c'est donc de créer donc, une sépulture et de lui donner de la monumentalité. C'était il y a à peu près 3500 ans avant notre ère. On a exactement le même phénomène qui se produit de l'autre côté de la Méditerranée, en Égypte. On fait la même chose. On va construire un tombeau pour quelqu'un là qui est important, le pharaon, et on va placer une pyramide par-dessus pour lui donner de la monumentalité. La démarche est la même, exactement la même, sauf qu'ici, nous, ce sont des dolmens avec des tertres. Et dans la région, on a énormément de dolmens. En Quercy, on en connaît plus de 600, ce qui fait que la région du Quercy est la troisième région de France en nombre de dolmens. Loin devant la Bretagne, contrairement à ce qu'on a tendance à penser. Devant, il y a plutôt l'Aveyron et la Lozère. Ça, c'est un des points forts de la préhistoire du Quercy, c'est d'avoir un très, 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 très grand nombre de dolmens, parce qu'on est dans un pays calcaire et qu'il y avait la possibilité, comme ça, d'extraire des grandes dalles pour pouvoir construire ces tombeaux mégalithiques. On a une vitrine qui restitue, en fait, la fouille d'un dolmen, un dolmen qui vient du nord du Lot, du côté d'Alvignac. Et on a donc la fouille d'un dolmen avec les outils de l'archéologue qui sont ici dans un coin, les carrés ABC, qui montrent un petit peu comment les préhistoriens peuvent fouiller un dolmen de ce genre.
Et on voit dans le dolmen, il y a une pointe de flèche, il y a comme des petits bijoux, ça voulait dire qu'ils se faisaient enterrer avec des outils ou des...
Tout à fait, oui, oui. Alors il y a le corps, effectivement, qui était déposé, le défunt, mais qui était déposé avec ses bijoux. C'est pour ça qu'on retrouve des perles en os, des perles en coquillage. On retrouve effectivement des pointes de flèches. S'il s'agissait d'un chasseur, par exemple, eh bien, il pouvait être accompagné par des flèches, pourquoi pas un arc. On retrouve des petits boutons, par exemple tout au bout là-bas, ici, là. Voilà un petit bouton, sans doute de vêtements. Il pouvait y avoir, pourquoi pas, peut-être certaines offrandes qui pouvaient accompagner ces défunts enterrés là. Qui suit, c'est une illustration donc, de cette révolution de la vie au néolithique avec les meules qui permettent d'écraser le grain que l'on aura produit par l'agriculture, la vaisselle avec les premières assiettes, les bols, les cuillères en argile. On a la reconstitution d'un couteau à moissonner, c'est en fait un morceau de bois dans lequel il y a une rainure qui est faite et puis on va coller donc, des lames de silex qui va permettre donc, de moissonner par exemple le grain. Les poteries, avec des poteries qui sont plutôt suspendues, accrochées donc avec un système de cordage pour éviter que les rongeurs puissent venir prendre les grains, par exemple, qui étaient préservés. Là, ici, on a des fusaioles qui permettaient, par exemple, avec cette baguette, de filer la laine, par exemple. Des poinçons en os, toujours l'outillage en silex hein, qui perdure, parce que ça, on a toujours besoin. Et puis, il y a l'outil emblématique de cette période-là, c'est ce qu'on appelle les haches polies. Alors la particularité de ces haches, c'est du silex, on le voit, sa surface, la surface est très lisse. On parle de hache polie, c'est sans doute de là vient le nom de néolithique, nouvelle pierre, parce qu'en fait, je vous disais que les premières installations domestiques datent de cette époque-là, les premières maisons, mais pour construire ces premières maisons, il faut abattre des arbres. Pareil, il faut abattre des arbres aussi pour avoir des terrains à mettre en culture. Et abattre des arbres, il faut avoir des haches. Et pour avoir des haches, faut avoir des haches qui résistent. Quand on taille une hache en silex, une fois que la taille est terminée, à la surface de la hache, on a toute la trace des enlèvements à la taille de ce silex. Donc, à la surface de la lame, en fait, on a plein de petites crêtes, on a plein de petites vagues. Et si on veut abattre un arbre avec une hache comme celle-là, on va donner un coup, deux coups, trois coups, et au bout de quelques coups, en fait, la hache va voler en éclats. Elle va exploser parce que la violence du choc pour abattre un arbre est tellement importante qu'en fait, la roche ne résiste pas. Ben, les préhistoriques ont trouvé une solution. C'est qu'une fois que la hache était taillée, habituellement avec un caillou, avec un percuteur pour enlever, dégrossir et lui donner la forme générale, eh bien, les préhistoriques ont eu l'idée de polir la surface de la roche pour lui donner comme ça cette surface très lisse sur la totalité de l'objet, ce qui fait que après en utilisant cette hache polie pour abattre les arbres, l'onde de choc provoquée au moment de l'impact, eh bien cette onde de choc va se propager uniformément sur toute la roche, toute la hache, et donc va permettre de la garder entière. Alors qu'auparavant, en ayant ces petites crêtes à la surface, l'onde de choc se concentrait sur ces sommets de crêtes, et c'est ça qui fragilisait l'objet et qui finissait par la faire voler en éclats. Ça permettait d'avoir des outils qui étaient efficaces et qui permettaient du coup de mettre des parcelles en agriculture, d'avoir des troncs d'arbres pour construire les maisons, éventuellement faire des palissades pour se protéger, parce que c'est à partir de ce moment où on commence à être sédentaire, où on dit bah, « là, c'est chez moi ». Je vais protéger ma maison, je vais protéger mon village, je vais protéger mon champ de culture. Ben, ça peut susciter des envies des uns des autres, donc il faut commencer à se défendre. Ben, en fait, quand on commence à dire « là, c'est chez moi, c'est ma propriété », c'est un petit peu le début des ennuis.
C'est donc, là où tout a commencé.
Voilà, voilà. En fait, les origines de notre culture d'aujourd'hui ben, remontent en fait au néolithique. Pour terminer, on a cette vitrine-là, alors là, qui raconte vraiment la fin, l'extrême fin de la préhistoire. C'est ce qu'on appelle la proto-histoire, ce que tout le monde connaît comme l'âge des métaux. Âge du cuivre, âge du bronze, âge du fer. C'est les débuts de la métallurgie. Là, c'est une nouvelle technologie qui rentre en jeu. On commence par l'âge du cuivre, parce que c'est le minerai de cuivre, c'est celui qui a un point de fusion le plus bas, donc le plus facile à obtenir. Et on va faire les premières haches en cuivre, ou les premiers éléments de parure, les aiguilles, les anneaux en cuivre. Mais bon, le cuivre, ça reste quand même assez mou. Donc, c'est pas très intéressant. Et au fur et à mesure, on va mettre en place deux nouvelles technologies de métallurgie avec le bronze et puis après avec le fer. Le point de fusion du fer est beaucoup plus élevé. Donc là, ça suppose d'avoir des fours beaucoup plus performants au niveau des températures qui permettent d'avoir fabriqué au final des grandes épées. Et puis là, on a tout un ensemble de mobilier métallique, aiguilles, des parures également, avec des bracelets, des petites boutrolles. Ici, on a cet objet-là, avec ces deux courbures de chaque côté. C'est un rasoir, en fait. C'est un rasoir en bronze, celui-ci, voilà, qui permet aux hommes de se raser. Et puis, bien sûr, les poteries qui se développent. Alors, les poteries, on a toute une série là. Ça montre, en fait, les différents types de décors que l'on pouvait faire sur les poteries. Alors, des décors que l'on pouvait faire, par exemple, en gros cordons épais. Alors ça, c'est dès la fabrication de la poterie. On fait ces cordons assez épais, puis que l'on incise ensuite avec le doigt. On pouvait faire des dessins simplement à incision. Là, par exemple, on a des petits traits faits directement à l'ongle sur la poterie avant la cuisson. Mais on peut voir des dessins qui sont faits après cuisson, au-dessus. C'est des traits qui sont gravés une fois que la cuisson a été faite. Ce sont des motifs en chevron, en traits parallèles, etc. Et en fait, tous ces motifs sur la poterie, ça permettait de se reconnaître d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que chaque groupe culturel avait sa manière de faire tel ou tel type de décor. Ça permettait de se reconnaître. On était du même groupe, on était de la même culture. Et ça permettait de se différencier aussi des autres, de certains groupes, de l'autre vallée, par exemple. Ah ben non, on n'est pas comme eux, on va faire un décor différent. Et ici, dans la région, on a eu une culture particulière qui n'a pas duré très longtemps, au cours de l'âge du bronze. C'est le groupe du Noyer, ça vient de la grotte du Noyer. Ils avaient la particularité de faire des poteries avec des petits pieds. Donc là, on voit une jarre avec, 7 ou 8 petits pieds tout autour. Le gobelet à côté, pareil, il avait des petits pieds dessous. C'est très local, c'est juste Vallée du Lot, un petit peu l'Aveyron. Ça a perduré pendant quelques siècles et puis après, ça a disparu. Alors toutes ces poteries-là ont été faites au colombin ou en utilisant un panier, par exemple en osier, et on appliquait l'argile tout autour. En tout cas, on n'utilisait pas le tour de potier. Le tour de potier viendra un peu plus tard, au moment de l'Antiquité, et ça, c'est les Romains qui vont l'apporter. Donc ici, on termine avec l'âge du fer, L'âge du fer, avec ses poteries très noires, c'est des techniques de cuisson particulières. Ben, l'âge du fer, c'est l'époque des Gaulois. C'est le moment où on a les Cadurques qui sont ici en Quercy. Il y a un site important de la fin de l'âge du fer en Quercy qui est Ouxelles-Audenom, dans le nord du département du Lot, où on a en fait le dernier siège fait par les légions romaines de César auprès de Gaulois, bien après la chute de Vercingétorix à Alésia, qui est datée de 52. Plusieurs mois après, il y a encore des Gaulois qui résistent à l'envahisseur. C'est ici en Quercy, à Ouxelles-Audenom, donc qui a été identifié pour, en étant dans la vallée de la Dordogne, à côté de Vérac. Voilà.
Donc et Astérix et Obélix, en fait, pour être des Lotois.
Et tout à fait, ce sont des Lotois. Voilà, puis avec ça, ben, on termine en fait cette longue période de la préhistoire et on rentre dans l'Antiquité, une fois que les légions romaines de César envahissent toute la Gaule, et on rentre dans la période gallo-romaine.
Ben, merci beaucoup pour ce voyage dans l'histoire. On voit une autre dimension de l'humain.
Oui. Mais c'est vrai qu'on a on a une très grande richesse ici en Quercy, dans le Lot. Ça ne se sait pas. Les Lotois ne connaissent pas en fait la richesse scientifique de tous les sites préhistoriques de la région. On n'a rien à envier avec la Dordogne, qui est souvent mis en avant comme étant la vallée de l'homme, le pays de l'homme, etc. Mais en Quercy, depuis la fin du 19e siècle, il y a des préhistoriens, amateurs, professionnels, qui travaillent, qui découvrent des gisements, qui étudient ça très sérieusement. Et on a une richesse vraiment énorme. Comme je le disais, depuis 350 000 ans, on a une occupation quasi continue. On a un enregistrement systématiquement de toutes les cultures qui a pu être préservée. Et il y a encore beaucoup de sites aujourd'hui qui font l'objet d'études dans le département. On a des chercheurs des universités de Toulouse, de Bordeaux. Là, actuellement, il y a un chercheur du Muséum d'histoire naturelle de Genève qui est à l'étage au musée en train de travailler et étudier des collections du Quercy. On a un potentiel énorme. Et ici, ce musée, c'est le seul musée de préhistoire de tout le département qui présente donc l'ensemble de l'occupation humaine de la région.
Un vrai trésor.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Si vous souhaitez retourner au musée de la Belle Limousine du Pêche-Merle, vous pourrez retrouver l'émission consacrée au musée dimanche 2 mai à 19h30 et également sur la page Miss Cloud d'Antenne Doc. Pour aller sur place, vous trouverez toutes les informations relatives à la grotte du Pêche-Merle et à son musée, notamment sur leur réouverture, sur leur site pêchemerle.com. Vous pouvez également retrouver toutes les informations concernant le réseau des paléonautes sur leur site paléonautes.fr. Notre prochain rendez-vous sera le vendredi 28 mai à 10h30 en compagnie de Frédéric Bérard pour la visite des phosphatières du Clos d'Oral. Alors, à tout bientôt !